sais rien, Charles. J'ai réfuté totalement ce qui se
passe. Moi, c'est une diplomatie au Kashanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le gouvernement congolais a déclaré à la Cour constitutionnelle que l'anarchie qui s'observe dans les nouvelles provinces est préjudiciable à la sécurité et à l'ordre public. Cette situation était déjà évoquée par certains observateurs et autres acteurs politiques qui estiment que la RDC est un État sans province et mort-né et aussi sans budget. Et que la solution à ce jour donc passe par la surveillance de la loi de programmation de mise en place de nouvelles provinces. Alors, comment commencez-vous cette actualité? Hérité Sidiakala est à la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Lamegi, Julie Pesa Bongonda est au standard, J.R. Mungembo est au micro et coordonne ce programme sous la supervision d'Elonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, avant d'ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui vont intervenir dans cette émission autour de la déclaration du gouvernement auprès de la Cour constitutionnelle, la déclaration qui consiste à, au fait, évoquer l'anarchie qui s'observe dans les nouvelles provinces, qui, du reste, est préjudiciable à la sécurité et à l'ordre public. Alors, nous avons dit en sommaire, dans la liminaire de cette émission, que cette situation était déjà évoquée par certains observateurs et autres acteurs politiques qui estiment que la RDC c'est un État sans budget, sans province, et que c'est un État mort-né, et que la solution à ces jours passe par la surséance pure et simple de la loi de programmation des mises en place des nouvelles provinces. Alors, comment vous commentez cette actualité? Nous avons dans ce studio Steve Kewata, qui est cadre du Palou, et aussi un des organisateurs du cinquantenaire de Palou, hein, qui est des ateliers qui ont été organisés, et avec Moutoto, qui est l'initiateur de la troisième voie. Bonjour Steve, bonjour Moutoto.
Bonjour Gilles.
Alors, d'entrée de jeu, aujourd'hui, est-ce vrai, l'avenir vous a donné raison?
Bien sûr que oui, l'avenir nous a donné raison. C'est vrai que c'est le peuple qui va en souffrir. On ne peut pas en être content. Mais aujourd'hui, le gouvernement a démontré qu'il a une incapacité de prévoir les événements. Parce que malheureusement, la Cour constitutionnelle est aussi tombée dans son piège. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer le fait que l'installation d'une nouvelle province, ou soit de l'élection de gouverneur et de vice-gouverneur, puisse échouer. On ne peut pas considérer cela comme étant un événement imprévisible, un cas de force majeure, comme l'a considéré la Cour constitutionnelle. Tout simplement, on donne plus ou moins 4 ou 5 raisons pour cela. 1. Gouverner, c'est prévoir. Les gouvernements devaient savoir que quand on doit gouverner, il faut prévoir. Deuxièmement, aujourd'hui, l'installation de nouvelles provinces, après la révision constitutionnelle de 2011, était devenue une compétence du Parlement, une compétence du législateur. Par conséquent, cette loi ne pouvait être qu'un projet de loi. C'est le gouvernement lui-même qui a introduit un projet de loi au sein du Parlement pour demander à ce que dans 120 jours qu'il puisse installer une nouvelle province. Alors, le même gouvernement qui a prévu que dans 120 jours il allait installer une nouvelle province, il ne peut pas nous dire que quand il n'y a pas d'argent et que cela était devenu un événement imprévisible, parce qu'il devait tout simplement prévoir le moyen pour l'élection des gouverneurs. Troisièmement, l'article 134 de la Constitution dit ceci. Aucun député, aucun sénateur ne peut amener une proposition de loi qui a comme conséquence de créer une charge publique pour l'État. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé. La Constitution a voulu que le gouvernement puisse introduire des textes de loi à travers un projet de loi parce que seul lui a les moyens pour prévoir son exécution. C'est-à-dire aujourd'hui, aucun député, comme je le répète, ne peut introduire une proposition de loi, par exemple, pour installer une nouvelle province. Donc, seul le gouvernement devait le faire. Donc, la Constitution a fait ainsi pour que, lorsqu'il faudra dépenser, que l'on ne puisse pas dire que le moyen n'existe pas. Donc le même gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va introduire un projet de loi, et par après, le moment où il faudra dépenser, il ne peut pas évoquer un cas de force majeure. Quatrièmement, c'est le 26 février qu'on a promulgué la loi sur l'installation de nouvelles provinces. Et à l'époque, avant, l'honorable Moujit avait d'abord écrit la première tribune sur l'État sans province, par après sur l'État sans budget, et dans la troisième tribune, il a écrit « Installation de nouvelles provinces et élections locales égale à la faillite de l'État ». Et dans cette tribune, sur la première page, il a tiré la sonnette d'alarme, il a dit au gouvernement que dans le budget 2015, il n'y a aucune rubrique qui est prévue pour l'installation de nouvelles provinces. Et à l'époque, c'est vrai, on a encore tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y a aussi, il n'y a pas de moyens pour le fonctionnement de ces nouvelles provinces qui seront installées. Donc dans le budget 2015, il n'y avait aucune rubrique. Mais à l'époque, toujours dans cette tribune, on se disait que le gouvernement pouvait trouver des ressources exceptionnelles, des ressources extérieures, pour pouvoir, en juillet ou en juin, faire un budget rectificatif, en introduisant une nouvelle rubrique sur l'installation d'une nouvelle province. Nous étions assez optimistes, nous pensions que le gouvernement allait faire ce budget rectificatif. Mais malheureusement, on arrive en juillet, le gouvernement n'est jamais passé au Parlement pour faire un budget rectificatif, et moins encore, le parlementaire n'a jamais réclamé à ce que le gouvernement passe au niveau du Parlement, parce que la loi existe déjà. Donc, et cinquièmement, s'il faudra le dire, les gouvernements a dit que, voilà, on peut dire que c'est un cas de force majeure parce que les cours de matières premières ont dû baisser sur le plan international. Par conséquent, ça a eu un impact sur le finance public et ainsi que sur la croissance. Ça, encore une fois de plus, c'est une fausseté. En quoi, quel est l'impact de cette baisse du cours de matières premières sur le finance qu'ils n'ont jamais prévu? S'ils avaient, par exemple, prévu une rubrique pour l'installation d'une nouvelle province et que, par conséquent, il y avait une chute de cours de matières premières sur le plan international, on allait se dire qu'il peut y avoir une petite conséquence. Même là, ça allait être difficile parce qu'en principe, il y a le principe de l'universalité budgétaire. Ça ne pouvait pas que toucher la rubrique sur les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs, si à la limite, c'était même prévu. Or, ça n'a jamais été prévu. Donc, ça démontre dans tous les cas qu'on ne peut jamais considérer que le fait qu'il n'y a pas de moyens pour l'élection de gouverneurs et de vice-gouverneurs, ça peut constituer un cas de force majeure. Donc, la Cour constitutionnelle a tapé à côté.
Mais alors, mais dès lors que le gouvernement est allé jusqu'à organiser les dépôts des candidatures pour les élections des députés provinciaux, à ce niveau, certains observateurs estiment qu'on devait quand même faire confiance à ces gouvernements qui, de bonne foi en tout cas, tenaient à organiser ces scrutins et aussi à continuer correctement à tenir les processus électoraux.
Nous devons différencier l'élection des députés provinciaux de l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs
de province,
qui sont liés avec l'installation de nouvelles provinces. Donc nous ne faisons pas les procès au gouvernement pour les élections provinciales parce qu'il ne s'est pas s'agir de cela dans la requête de la CENI. Donc aujourd'hui, le problème, c'est l'installation d'une nouvelle province. Le gouvernement lui-même a mis en place un projet de loi qui a été adopté au niveau du Parlement pour que le gouvernement installe les nouvelles provinces dans 120 jours. Le gouvernement n'y a pas réussi. Le gouvernement dit qu'il n'a pas de moyens parce qu'il y a un cas de force majeure. Nous nous démontrons que c'est une fausseté et nous démontrons par la même occasion que la Cour constitutionnelle est tombée trop bas. Parce qu'en réalité, la Cour constitutionnelle devait tout simplement se déclarer incompétente et en rester là. Parce que, compte tenu du fait que l'installation d'une nouvelle province a été déterminée par une loi, et que le Parlement est aussi l'autorité budgétaire, c'est lui qui sait mieux contrôler le moyen des dépenses du gouvernement, alors ça devait se faire dans un débat au Parlement. C'est peut-être par une modification de délai d'installation d'une nouvelle province qu'on allait trouver la solution.
Alors, raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons tout suivi l'actualité hier, lors de la rentrée parlementaire, les discours des deux présidents de chambres nous ont éclairé davantage, et surtout au niveau de l'Assemblée nationale, où, disons, il y a
quand même des préalables, hein, des matières qui seront inscrites à l'ordre du jour de cette session. Il y a notamment l'adoption de la loi sur la reddition des comptes dans le cadre de ce contrôle parlementaire avant, au fait, l'adoption du budget 2016. C'est une conditionnalité. Alors, Moutoto, vous êtes initiateur de troisième mois. Comment vous avez commenté, vous, personnellement, cette déclaration du gouvernement par rapport à l'anarchie qui s'observe dans les nouvelles provinces qui reste préjudiciable à la sécurité et à l'ordre public?
Je voudrais d'abord saluer davantage les auditeurs de la radio Capite de Kinshasa, des provinces de la diaspora, qui nous suivent, mais mon intervention va s'articuler sur quatre points essentiellement. Le premier point, c'est la Cour constitutionnelle. Vous savez, en droit, il y a un adage qui dit, je crois qu'un simple principe, que la compétence est d'attribution. Et nous, en droit administratif, nous disons que dans l'attribution qui vous est reconnue par les constituants ou l'autorité compétente, il y a la compétence liée et la compétence discrétionnaire. Donc, en dehors de ces atouts qu'on donne à un organe, à une personne qui anime cet organe, personne, au nom du principe du contrat social, c'est-à-dire de la séparation de pouvoir d'État notamment, le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, aucun autre organe exerçant le pouvoir d'État n'a le pouvoir de se déplacer jusqu'à l'exercer des compétences dans les matières qui ne relèvent pas de ses prérogatives. Alors, pour faire comprendre très bien ce qui nous suit, que la Cour constitutionnelle a dévié, il faut que nous puissions lire l'article 160 et 161 de la Constitution qui donne clairement les options fondamentales de la création, fonctionnement et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans toutes ces attributions, il n'y a aucune attribution qui donne à la Cour constitutionnelle la possibilité d'inviter la CENI ou de répondre à la requête de la CENI.
Oui, ça nous avons débattu hier avec professeur Tshibangu-Kalala qui a expliqué en loi large. Mais à ce jour, le fait que le gouvernement ait déclaré que aujourd'hui l'ingouvernabilité de nos provinces. Qu'est-ce que là vous avez fait?
Mais c'est ça, il faut qu'on termine d'abord à comprendre pourquoi une haute cour comme ça peut-elle rater sa première sortie jusqu'à s'imposer sur les compétences qui ne lui appartiennent pas. C'est ça la question. Et si dans un pays, la haute cour est politisée, donc l'avenir du pays est foutu. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc, il n'y a pas eu arrêt de la Cour. Parce qu'on n'a pas de l'arrêt de la Cour qui est inattaquable, que lorsque la Cour a dit le droit ou s'est prononcé dans les compétences qui lui sont reconnues par les lois de la République, ou je vais dire par
l'interprétation de la Constitution.
Voilà. D'ailleurs, elle est le juge de la Constitution et pas autre chose. Deuxième chose, comment nous devons aujourd'hui nous poser la question de savoir à quelle question le Premier ministre a-t-il répondu? On lui a posé la question, on a combien d'argent, ou bien on lui a posé seulement la question, tu n'as pas l'argent pour organiser les élections. Et si jamais le Premier ministre a répondu à cette question, non, c'est tellement grave. Parce que l'argent de l'État, ce n'est pas comme un argent qui tombe en un moment, c'est fini. L'État, le ministère des Finances peut déclarer les 15 à 8 heures qui n'ont pas l'argent, les mêmes 15 heures, l'argent est entré, parce qu'il y a un service qui est chargé de collecter les impôts. Le gouvernement devait nous dire que s'il manquait les montants, il les manquerait pour combien de temps? Ou bien que le gouvernement nous dit qu'au cours de cette année, pour la suite de cette année, il ne peut plus aller vers le contribuable pour avoir de l'argent. C'est extrêmement grave. Deuxième chose, comment un premier ministre peut-il aller répondre à une question concernant l'argent sans être accompagné du ministre du budget et des finances qui ont, eux, les qualités exceptionnelles en ce qui concerne les finances publiques? Le ministère du budget, parce que c'est à lui qu'on va poser la question de savoir combien avons-nous planifié pour cette opération. Et au ministère
du budget. Mais le premier ministre, c'est le chef du gouvernement.
Non, écoutez, le chef du gouvernement, mais on devait d'abord nous parler des prévisions des opérations annuelles. Mmh. Pour voir qu'au niveau du budget, on n'a pas prévu, et qu'au niveau, soit on a prévu, qu'au niveau du ministère des Finances, on n'a pas mobilisé les recettes. on est
non, mais parce que parce que la cour n'a pas cette matière, non,
il ne peut pas réguler
la vie politique.
Ouais. La CNI ne manque pas quand même de ce conseil juridique. Comment la CNI peut-elle être introduite une requête en interprétation de l'article 10 de la loi de programmation et de l'article 168 de la loi électorale sans savoir au préalable que la cour n'a pas...
Voilà pourquoi, avant que nous ouvrons les standards, que certaines personnes exigent la suspension de la loi de programmation pure et simple.
Est-ce que vous pardonnez cette année? Maître Steve va répondre à cette question que si se poserait un problème de loi, c'est à l'Assemblée nationale qui est l'émanation de la CNI des traités.
Voilà
qu'on l'usurpation du pouvoir n'a pas de la CNI.
Voilà. On va prendre les auditeurs et puis on reviendra à vous. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur qui est en ligne. Confiance est à Kinshasa, Ernest Amatadi, Jean-Vincent Lomela. Jean-Vincent est à Lomela. Confiance, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Mbote Jambo, à tous les occupistes de la radio de la paix.
Alors, je rappelle encore la thématique du jour. Le gouvernement congolais a déclaré à la Cour constitutionnelle que l'anarchie qui s'observe dans les nouvelles provinces est préjudiciable à la sécurité et à l'ordre public. Alors, cette situation a été déjà évoquée par certains observateurs et autres acteurs politiques qui estiment que la RDC est un État sans province et sans budget et que la solution à ces jours passe par la surséance pure et simple de la loi de programmation des mises en place des nouvelles provinces. Qu'en pensez-vous?
Ma façon de penser serait plus simple, c'est celle de se poser d'abord la question de savoir qui a créé ce désordre, qui a créé l'anarchie et à qui est-ce que profite l'anarchie. Au lieu de faire des déclarations tapageuses qui frisent l'irresponsabilité, le gouvernement devrait se gêner d'être à la base de ce désordre organisé, avec des plans savamment montés, conçu avec des objectifs ayant produit le résultat attendu, parce que c'est ce résultat-là qu'ils attendaient. C'est le résultat lorsqu'on joue avec le feu, en essayant de tenter des expériences dangereuses et explosives issues de leur propre laboratoire. C'est ça la preuve du résultat lorsqu'on cherche à apprendre au sommet de l'État. Par honneur, au lieu de se faire rabaisser à ce niveau, il serait mieux qu'ils démissionnent pour qu'on mette des gens capables de gouverner ce riche pays qu'on veut tout le temps humilier, clochardiser, rabaisser chaque fois que ce pays essaie de se relever. Nous avons acquise cette démocratie au prix de beaucoup de sacrifices. Quand 100 jours après la mise en place d'un gouvernement, il n'a pas les moyens de sa politique, on doit rendre le cabinet. Parce que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est avoir la prévision. Gouverner, c'est avoir la preuve de la prévision, l'anticipation, la gestion. Pourquoi est-ce qu'on veut gérer avec des résultats? On attend qu'il y ait un résultat et puis on veut gouverner. Moi, je pense sincèrement, ça fait vraiment mal qu'une année après, 100 jours, 200 jours, une année, deux ans, qu'on soit incapable de voir ces histoires ici. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a parlé de la planification ou des provinces? C'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2010-2011. Nous avons voté au référendum pour que le pays ait 26 provinces. C'est début 2006. Et comment est-ce que 9 ans après, on peut nous tenir ce discours? Ça fait très mal. Où est-ce qu'on va amener ce pays? Qu'est-ce qu'on veut faire de la population? Qu'est-ce qu'on veut que la population fasse pour qu'ils comprennent qu'ils sont pas capables de gérer? Parce que gérer, gouverner, c'est prévoir. Comment est-ce qu'ils ont été incapables de prévoir tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui? Ça fait mal d'hier.
Voilà, donc vous partagez l'avis selon lequel il faudrait ce soir donc la loi de programmation des mises en place des nouvelles provinces.
Ce n'est pas une urgence. Il y a beaucoup d'urgence. L'urgence actuellement, c'est doter le pays des autorités capables de gérer ce pays, déjà que le peuple lui-même a choisi. C'est ça le problème. Alors, porter le chapeau de leur échec à d'autres personnes. Mais là, tout le calcul, ça va vraiment monter. Tous ces plans ici sont connus. Vous avez suivi l'émission d'hier. Je pense que l'analyse de l'auditeur qu'on a même répété aujourd'hui a synthétisé d'une manière très brève tout ce qui a été fait, plan par plan, avec institution par institution. Comment voulez-vous qu'on mette des institutions en place d'une manière précipitée? Même la Cour constitutionnelle vient de tomber dans leur piège. Donc, ce sont des choses qu'on fait. Est-ce que la Cour constitutionnelle devait être mise en place à quel moment? Pourquoi on le fait à la veille des élections? Pourquoi on le fait à la veille de, des événements comme ceci? Donc, si ce n'est pas avec des calculs politiques,
voilà, merci
pour
beaucoup.
Atteindre un certain résultat.
Merci beaucoup, confiance. Il y a d'ailleurs le message d'un auditeur qui dit, ben voilà, pourquoi avoir installé la cour constitutionnelle que juste à la veille des élections, et pourquoi n'avoir pas pensé à installer au même moment la cour de cassation qui pourrait être à mesure de pouvoir traiter d'autres matières. Merci beaucoup, confiance, d'avoir appelé de Kinshasa. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour, Ernest.
Bonjour JR, bonjour l'invité, bonjour tous ceux qui nous écoutent en cet instant.
Vous avez la parole, Ernest. Comment vous commentez cette thématique?
La tristesse d'abord, c'est de remarquer que pourquoi Mosé a évacué les armes et chassé la dictature. Il avait tort, il avait raison. Voilà pourquoi je me dis, on ne s'improvise pas au tour ici, chef de l'État, premier ministre, commissaire ou gouverneur. C'est vraiment au centre de l'improvisation au sommet et dans nos institutions. Ça fait très mal. Aujourd'hui, la fois passée, les émissions passées, nous avons dit que le plan préparé pour ce pays, plan B, plan A, et maintenant, je crois, c'est le plan C ou E qui est en train d'être exécuté. Si le gouvernement déclare qu'il y a une gouvernabilité
dans les
provinces, qu'elle lui-même avait prévu, accepté, que cela soit installé pour gouverner, c'est-à-dire qu'on a en train d'exécuter ce plan pour que l'ingouvernabilité de ce territoire soit confirmée à travers la communauté internationale, pour que précipitamment on va encore courir à d'autres institutions, déclarer l'état de siège et tout prendre en état et effacer tout ce qui est prévu comme activité dans ce pays lié aux élections. C'est très grave et c'est très marrant pour ceux qui aiment ce pays. Alors, on se demande comment les parlements observe tout cela. On devrait maintenant prendre la position. Je crois qu'on est en train de vivre des choses qui vont nous amener à un blocage total où il y aura méfiance et mouvement qui interpelle la présidence de la République. Parce que demain, dès que la cacophonie sera confirmée, tout le monde, ceux qui semblent être les proches, qui semblent être les véritables conseillers du chef de l'État, ceux qui chuchotent à son oreille, vont se dire, vous ne savez pas qu'il est seul le chef et tout tombe sur lui. Et le chef de l'État ou le président de la République comme institution doit se rappeler que hier, M. Mobutu était presque dans les mêmes difficultés et s'est retrouvé seul, isolé, avec sa petite famille biologique et les autres ont changé de camp. Je crois que le président de la République doit ouvrir l'œil pour sauver réellement cette nation parce qu'il est venu ici avec son père pour défendre cette République. Et aujourd'hui, ça fait très mal. Nous avons une femme qui n'a pas eu la possibilité d'avoir des enfants. Les médecins ont intervenu et le bébé est né. Alors on va sacrifier ce bébé vraiment pour les intérêts parce qu'il est partisan.
Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ernest, juste une question également dont vous êtes d'avis qu'il faut ce soir carrément la loi de programmation.
Il faut simplement retirer qu'on devait abolir tous ces textes qui dérangent le pays. Qu'est-ce que nous avons perdu en ayant 11 provinces et qu'est-ce que nous avons gagné s'il y aura 26 provinces?
Voilà.
Qu'est-ce que nous avons gagné de plus?
Merci beaucoup.
Il faut simplement
gouverner
ce pays. Les États-Unis, c'est un grand pays du point de vue superficie. Nous, c'est l'incapacité que nous avons de gérer notre pays. 2 millions de kilomètres, ce n'est pas trop. Ce n'est pas trop par rapport à 9 millions. Comment ces gens arrivent à organiser le pays? La Palestine, c'est un grand pays. Comment on arrive à l'organiser? C'est la quête parce que les gens arrivent à s'improviser à des postes de commande.
Voilà, Jean-Vincent, vous êtes à nommer là. Bonjour Jean-Vincent, merci Ernest. Jean-Vincent, bonjour.
Bonjour, bonjour bien.
Vous avez la parole, Jean-Vincent.
Bon, merci bien. D'abord, je salue tous les deux invités, surtout mon grand frère, Komutoto, qui a toutes les salutations de son territoire d'origine.
Et nommé là.
Et le mien aussi, nommé là.
Allez-y, allez-y.
Je vais aborder dans le même sens que mes précédents. Il est dit que gouverner, c'est prévoir. Nous sommes arrivés à attendre qu'un gouvernement qui s'est dit des technocrates puisse étaler une honte à la face du monde en déclarant qu'il y a une anarchie qui s'installe pendant que c'est le gouvernement qui a planifié l'installation de nouvelles provinces. Et si Matata a ce courage de parler devant la haute ou la cour constitutionnelle, moi je pense que je ne sais pas comment on peut qualifier ça, ou de l'immaturité ou de la mauvaise volonté. Alors nous avons un problème. Nous on se pose la question de savoir si ce plan qu'ils ont fait, qu'on peut mettre en place, va nous amener à l'émergence, entre guillemets. Moi, je pense que c'est le moment au gouvernement, plus que tout au chef de l'État, de suivre la voie de la raison. C'est utile de donner raison au G7.
Voilà, Jean-Vincent, d'abord la question. La lettre.
Dans la rue, nous voyons les choses. Moi, je pense que nous allons tout droit vers le mieux.
Merci beaucoup, Jean-Vincent de Lomela. Et nous vous informons déjà que la lettre relative à la position de G7 sera abordée au cours de l'émission Parole aux auditeurs demain, en tout cas à partir des 11h, 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Radio Okapi célèbre les 70 ans des Nations Unies avec ses auditeurs de Goma dans Okapi Service. Venez nombreux participer à deux grandes émissions le mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015 de 10h à 12h dans la salle Binda. Au menu, le bilan des activités des Nations Unies en RDC, l'emploi, l'entrepreneuriat, bref, le développement social. Au Okapi Service en direct de Goma, c'est ce mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015, de 10h à 12h, dans la Sabinda, avec jeudi Daniel Sacha.
Merci de rester à l'écoute de cette émission.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de débats citoyens. Kumutoto, initiateur de troisième voie, vous venez de suivre cette première série des auditeurs. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai, de plus en plus, les gens commencent à comprendre que finalement, ceux qui ont développé la thèse selon laquelle que nous sommes en train petit à petit de nous tendre vers un État mort-né.
Monsieur le journaliste, je salue d'abord le frère biologique de l'homme là où que vous êtes. Je vous dis que nous allons nous battre pour que le Congo n'aille jamais jusqu'au mur. On ne peut pas clouer un peuple sur ou contre le mur. Non. Le peuple est sacré. C'est plutôt la personne qui veut toujours ce jeu du peuple qui sera cloué au mur et jamais le peuple congolais. Ce peuple a trop souffert. Nous allons nous battre pour qu'il ne continue plus sa souffrance. Ça, c'est la première chose, et ça concerne tous les patriotes congolais. Deuxième chose, monsieur le journaliste, c'est écœurant. Que dit le lexique politique sur les concepts anarchie? Ça signifie seulement, synthèse, l'absence de l'autorité. Et si la haute cour nous dit qu'il y a anarchie dans les provinces, la cour confirme qu'au Congo, il n'y a pas un président de la République, il n'y a pas un premier ministre, il n'y a pas un gouvernement. Parce que nous ne savons pas comprendre comment on peut qualifier les faits politiques planifiables de cas de force majeure. La force majeure est définie ou est constituée des faits et surtout des phénomènes sociaux en termes d'aléas non prévus qui nous arrivent et basculent ou bougent le fonctionnement normal ou harmonieux des institutions. Mais le budget de l'État, c'est la planification, c'est la prévision. Comment on peut aujourd'hui nous dire que pour une opération qui était connue d'avance, qu'on devait remplacer les gouverneurs de l'ancienne législature, qu'on nous dise qu'il y a un cas de force majeure? Alors dans ces cas, nous devons brûler les dictionnaires et tout ce que nous avons eu comme connaissance seulement pour protéger un régime qui ne résout pas jusqu'ici les problèmes de la population. C'est extrêmement grave. Deuxième chose, si votre état, dans votre studio ici, moi, maître Steve et moi, étions en train de relayer la tribune d'Adolphe Mouzou, tu crois, l'État sans province. On qualifiait ces idées de quoi? De la haine avec le régime, parce que Mouzou n'est plus premier ministre. Alors que Mouzou, encore premier ministre, en 2010, écrit un livre intitulé Installation des nouvelles provinces, défis et contraintes. Et sous-titré État de la question, je crois, piste de solution et problématique de la question et piste de solution. À ce moment-là, M. Tshisekedi était encore lui-même Premier ministre et voyait les dangers venir. Lorsqu'il va parler de l'État sans province, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Parce qu'il ne faudra pas que nous puissions tomber encore davantage dans les pièges pour ceux qui disent qu'il faut ce soir la loi de
programmation
entrer aux 11 provinces. Ah, nous sommes en train d'affirmer une négation contre nous-mêmes. C'est comme si nous voulons dire que les 11 provinces ont été bien tirées
et qu'il faut remettre le Congo dans un paradis question, voilà. Que nous avons perdu. Mais c'est pas grave. Définissons d'abord la constitution et le régionalisme constitutionnel actuel. Quel est le fondement ici? C'est la synthèse du conflit constitutionnel entre les fédéralistes et les fédéralistes au Congo depuis 1960 jusqu'à 1936 et qu'il y a eu un nombre de synthèses qui a concilié les fédéralistes et les unitaristes dans un régionalisme constitutionnel. Et que la décentralisation fait ici comme modalité de gestion du pouvoir d'État qui consiste à créer plusieurs personnes publiques avec leurs compétences et ressources. Et que ce n'est pas le pouvoir central qui doit retrocéder les compétences et les ressources au pouvoir central en tant que président décentralisé, pouvoir local. Non, c'est le constituant congolais lui-même qui a dit voici un groupe de compétences et ressources qui appartiennent au pouvoir central. Les contraires appartiennent au pouvoir provincial, aux entités qui doivent décentraliser et au pouvoir local. Maintenant, avec 11 provinces ou 26 provinces, quelle est la préoccupation des Congolais? C'est que la décentralisation soit effective, que le pouvoir central ne retienne plus les compétences et ressources des provinces. Et compétences veut dire quoi? Comment voulez-vous que dans un pays démocratiquement reconnu à travers le monde, nous puissions avoir un organe délibérant issu de la volonté populaire, c'est-à-dire des élections, avec un organe exécutif qui sera issu de la désignation, de la nomination, parce que la Cour constitutionnelle s'est prononcée forcément. Alors, les députés élus vont contrôler les gouverneurs ou les hauts fonctionnaires de l'administration nommés par le président de la République ou par le gouvernement.
Il y a déjà un temps.
C'est pas grave.
Voilà.
Deuxième chose.
Oui.
Ce qui est grave, c'est que l'opposition et la majorité au Congo sont les ennemis de notre peuple. Parce qu'on ne peut pas comprendre, si Rémi Palou, tous les grands partis de la majorité au pouvoir central ne veulent pas rétrocéder les compétences et les sous-traitants des provinces. Tous les grands partis
oui,
aussi de la même majorité
oui,
aux provinces ne revendiquent pas
les
prérogatives des provinces.
Oui, surtout en ce qui concerne les transferts des compétences, là je crois que ce sera une des petites solutions. Et même dans la tribune, c'est ça la solution. On va y revenir, mais le temps peut-être d'écouter trois auditeurs. On revient à vous, Maître Steve Tavouata. Professeur Robert, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur G.
Vous avez la parole, professeur. Le gouvernement a déclaré à la Cour constitutionnelle que l'anarchie qui s'observe dans les nouvelles provinces est préjudiciable à la sécurité et à l'ordre public. Mais cette situation était déjà évoquée par certains observateurs et autres acteurs politiques qui estiment que la RDC, c'est pratiquement un État sans province et sans budget. Alors, comment commentez-vous cela?
Oui, je crois que je vais utiliser deux volets. Il y a d'abord le volet de l'année 2006 qui a dégagé dans ces textes, dans la Constitution surtout, l'installation de 26 provinces. Bon, si nous partons de 2006, nous sommes aujourd'hui en 2015, ça fait combien d'années?
9 ans plus tard.
Bon, 9 ans. Maintenant, pendant 9 ans, on a attendu qu'on puisse organiser, installer les provinces, on pouvait même les étaler dans un planning de 2 provinces par an, 2 provinces, ça serait déjà terminé. Bon, on n'a pas pu faire ça. Pourquoi? Je rejoins ces amis qui disent gouverner, c'est prévoir. Dans les prévisions, dans les budgets, aucun budget n'a pensé à cette action de l'installation de nouvelles provinces. Nous sommes aujourd'hui, 9 ans après, à la veille des élections, en train de chercher à installer rapidement cette fois-ci. Mais avec quoi? Sans moyens. On le déclare ouvertement qu'on n'a pas de moyens. Alors que la CENI, qui avait cette mission, pouvait déjà obtenir cet argent, soit à partir des frais donnés par les cautions. Les cautions de ceux qui veulent devenir candidats et tout ce que vous voulez.
Oui, la caution de 500 000 francs.
C'est de l'argent bien bloqué qui doit avoir une destination précise. On ne peut pas y toucher. Et le gouvernement dit qu'il n'a pas de moyens. Où est-ce qu'il a mis cet argent? Ah, c'est lui qui gère. Alors, ensuite, nous sommes avec cette CENI, sans moyens aussi, alors que c'est depuis 2006 qu'on a créé la CENI. C'est que tous les 5 ans, nous devons avoir
de l'argent,
des élections. Ce qui veut dire qu'on doit aussi prévoir une loi sur le financement de ces élections, comme on l'a fait avec le fonds de route. Vous comprenez? Il y a le fonds d'entretien, le FONER, le fonds d'entretien routier. C'est un texte que les parlementaires ont voté.
Tout à fait.
On aurait dû continuer aussi, puisqu'on a tous les 5 ans, on a des élections. Il faut que nous ayons un fonds destiné à faire actionner cette importante institution pour qu'il n'y ait pas tout le temps ce problème de manque d'argent. Ensuite, 2 millions de dollars, ça ne peut pas manquer. C'est pour dire qu'on n'a pas envie d'arriver au résultat, d'arriver à organiser ces élections. C'est comme on dit, le fameux glissement.
Voilà.
Le glissement est toujours dans
Merci.
Donc, je suis sidéré de constater que l'État qui a la possibilité de s'imposer, de s'organiser, de trouver des moyens, déclare qu'il n'a pas de moyens. Donc, ils n'ont qu'à démissionner parce qu'ils ne savent pas comment trouver les moyens.
Merci beaucoup, professeur Robert. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour à tous les deux invités. Bonjour aussi à tous les millions d'auditeurs de la radio Pacifique. Par rapport à la thématique, monsieur Gilles, je dirais que c'est vrai, nous tendons vers l'insécurité, puisque pour le moment, les nouvelles provinces sont ingouvernables. Que les autorités qui ont mis cette loi d'administration à branle puissent la retirer, qu'ils n'aient pas honte. Ils doivent la retirer pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la population. Monsieur Gilles, je vais illustrer par un cas seulement. La province orientale. Le gouverneur vient même de suspendre la perception des impôts pour éviter les coulages. Alors, nous ne savons pas maintenant cette province va fonctionner avec quoi. Voilà le désordre qui est créé. Et les autorités actuelles doivent avoir le courage de recadrer la donne. Nous devons rentrer à l'ancienne structure, laisser le gouverneur en place, continuer le travail, et nous procédons seulement aux élections provinciales pour que ces élections provinciales puissent déboucher, que nous puissions déboucher à l'élection des gouverneurs. C'est simple. Si aujourd'hui le gouvernement déclare qu'il n'a pas l'argent, en tout cas, c'est une démonstration de l'incompétence notoire. Ils doivent démissionner. Ils ont failli à leur mission. Ils ne peuvent pas précipiter les choses pour vouloir punir certaines autorités. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la res publica, là où tout le monde a droit de faire ses déclarations d'une manière responsable.
Voilà, maître Sonville, si je comprends bien, vous êtes d'avis qu'il va falloir donc retirer carrément la loi de programmation de mise en place des nouvelles programmes.
Tout à fait, monsieur Gilles.
Merci beaucoup, maître.
Il y a le bénéfice d'urgence, monsieur Gilles. On retire cette loi.
Parce
que si vraiment on aime ce pays.
Voilà, merci beaucoup, maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. On va terminer cette deuxième série avec Dr. Rocky, qui est dans le Bandounouville. Dr. Rocky, vous êtes au Bandounouville, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, maître Gilles.
Voilà, vous avez la parole.
Oui, je salue d'abord l'invité qui parle, qui montre qu'il a quand même les soucis de ses compatriotes. Monsieur Gilles, moi je comprends que dans cette famille politique, il y a quand même des bons prophètes qui savent prophétiser les dangers qui peuvent venir pour la nation. Vous savez que le gouvernement amène des arguments, la CENI amène ses arguments, la Cour constitutionnelle amène ses arguments, alors ils ont déjà prédit quelque chose en ce que une cacophonie s'éclate dans notre nation afin que nous trouvons des catastrophes. Alors nous, en tant que peuple, nous savons bien que en 2016, nous attendons l'alternance du pouvoir. Alors tout cela, je ne sais même pas ce que je peux vous dire, M. Gilles.
Voilà, écoutez,
je peux parler, excusez-moi.
Allez-y, alors allez droit au
bout. Vous souviendrez avec moi que le mandat de 2006, pour que nous fassions les élections de 2011, le gouvernement s'est déclaré capable de financer les élections. À part la MONUSCO qui a aidé le gouvernement à faire les transports de toutes ces histoires, que sais-je encore. Alors, pour cette année, le gouvernement, sachant que c'est le dernier mandat, c'est l'argent qui n'est pas là. Alors, nous attendons uniquement le 2016.
Merci
en
beaucoup.
Cas, je vous remercie.
Merci beaucoup, docteur Rocky, 081-890-6315, pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKaki.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKaki.net, la radio en différé à votre service.
Voilà, maître Steve Kivota, on vient de suivre cette deuxième série et des auditeurs. Et d'entrée de jeu, on sait que cette histoire de décentralisation, en tout cas, celui qui a donné les tempos, c'est l'ancien ministre Mouzitou, avec la création de nouvelles villes. On avait même tenté, on a fait une série d'émissions ici avec Lumumba Ville, qui était une ville pilote, dans laquelle on devait faire cette expérience. Mais aujourd'hui, tout le monde s'étonne que ce soit la même personne qui, en fait, au sein de la majorité, qui écrit à ses pairs pour leur dire, mais voilà, attention, il y a un danger.
Effectivement, c'était pour tirer la sonnette d'alarme. D'emblée, je voudrais d'abord dire à nos auditeurs que ce n'est pas une mauvaise chose qu'on ait 26 provinces. Parce qu'en réalité, si on prend l'exemple uniquement du Katanga qui est subdivisé en 4, c'est plus ou moins la superficie et la démographie de la Zambie. Or, la Zambie, il y a plus de 11 provinces en elle-même. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. La RDC peut être mieux gouvernée avec 26 provinces. Mais le problème, c'est quoi ? Pour que les autorités au niveau des provinces puissent mieux gouverner, elles doivent bénéficier de compétences et des ressources. Nous nous retournons dans la première tribune de l'honorable Mouzitou quand il dit que la RDC est un État sans province. Parce que, Fumuto l'a si bien rappelé, le régionalisme constitutionnel que nous appliquons aujourd'hui, c'est un compromis entre fédéralistes et unitaristes. Nous, unitaristes, disions aux fédéralistes que si on entre dans les fédéralistes, on risque de tomber dans la sécession. Et effectivement, les anciens fédéralistes comme Tshombe étaient des sécessionnistes. Mais on a pu trouver un pacte en 2006 en disant, ok, nous, unitaristes, nous allons concéder un certain nombre de principes à vous fédéralistes et vous faites-en autant. C'était quoi le compromis ? C'était que le budget doit dorénavant être subdivisé en deux. 50% ça part pour le pouvoir central et 50% pour le province. 40% pour la rétrocession aux provinces et 10% pour la caisse nationale de péréquation. Et aujourd'hui, si les provinces sont ingouvernables, c'est tout simplement, même le 11, comme vous avez dit, si aujourd'hui on retourne aux 11 provinces, on ne doit pas croire que c'est un paradis qu'on avait perdu. Tout simplement parce que le 11 aussi fonctionnait mal. Tout simplement parce que le pouvoir central gardait au dévers de lui le essentiel de finances publiques, de recettes de l'État. Deuxièmement, la Caisse nationale des péréquations. D'ailleurs, on vient de la déclarer inconstitutionnelle auprès de la Cour constitutionnelle. Elle doit revenir au Parlement. Elle n'existe pas. Ce qui veut dire que les 10% qui auraient pu résoudre les dérapages de développement, les déséquilibres de développement entre provinces, ne peut pas être financé. Donc voilà les problèmes en termes d'État sans province. Donc aujourd'hui, qu'on ait 11 provinces, la nécessité, c'est d'abord la décentralisation effective en termes de ressources et en termes de pouvoir. Le compromis avec les fédéralistes, c'était quoi ? On a dit que c'est aux provinces qu'on doit donner les compétences sociales. L'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'agriculture, la santé, les affaires coutumières. C'est ce qui ne se fait pas. Lorsqu'elle ne dispose pas des ressources, lorsqu'elle ne dispose pas de pouvoir réel, ces provinces ne peuvent être que de morts-nés. Troisièmement, on a parlé de l'État sans budget. Le pouvoir central doit savoir que même si les provinces existent, il faut nécessairement que lui, il fasse un tableau de bord pour voir comment les provinces sont en train de fonctionner. Est-ce qu'il y a des déséquilibres de développement pour qu'il lui permette d'actionner la Caisse nationale des péréquations. Or, depuis 2012, nous avions démontré que le budget de l'État ne se fait pas voter et les parlementaires ne les réclament pas. Enfin, en définitive, quand on arrive à la septième tribune, nous démontrons que les provinces qui vont naître
ont déjà des problèmes. Le 11 avait des problèmes en termes de rétrocession, le 11 avait des problèmes en termes de pouvoir qu'on ne leur reconnaissait pas, les 11 provinces avaient des problèmes en termes législatifs, la loi sur la Caisse nationale de péréquation, la loi sur le fonctionnement des services publics du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées, ces nouvelles provinces ont reçu ce problème. Et en dehors de ces problèmes de 11 provinces, elles ont encore leurs propres problèmes. L'état institutionnel, le problème politique Fumoto Toa cité, finalement, elles sont soit de prématurées, soit de mordées. Oui. Quand on les dit, c'est tout simplement pour interpeller les gouvernements. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'avis qu'on doit nécessairement entre 11 provinces, parce que ce n'est pas un paradis qu'on a perdu. On était
déjà. Il y a déjà de l'anarchie. Il y a déjà de l'anarchie.
Il faut que l'on fasse un débat au niveau
des lexiques. C'est vrai qu'au niveau des lexiques, Fumoto Toa nous a rappelé.
On doit réunir au Parlement pour faire un débat. Peut-être qu'on peut faire une petite prolongation.
Alors, j'ai une question de curiosité. Je crois que le Comé de Congolais pouvait aussi penser comme nous. Est-ce que ce n'est pas là une part belle que l'ancien Premier ministre a donnée à ses pairs de la majorité? C'est comme tu dirais, hein, l'auditeur a dit ici, est-ce que ce n'était pas un plan déjà monté dans la majorité, mais lui, il a laissé les autres tomber dans l'eau, et puis maintenant, finalement, lui, il s'est tiré le plus vite possible.
Monsieur le journaliste, je pense que Maître Steve avait utilisé un mot dans l'autre émission que j'ai avec lui qui m'a beaucoup encouragé, le droit à l'ingratitude. Ça signifie quoi? Même si vous me désignez aujourd'hui pour être juge dans la Cour constitutionnelle, une fois que je suis déjà nommé, je dois travailler pour la nation. Et ma reconnaissance envers toi doit être définie dans le cadre du service que j'ai à mon peuple.
Donc ça ne sert à rien que nous attaquons à la Cour constitutionnelle.
En tant qu'intellectuel dirigeant, doit au peuple congolais. Il est étudié avec la bourse de l'État. Steve et moi avons payé le prêt Minerva par nos propres parents. Donc, vous dites, pour avoir été ancien inspecteur de finances, ancien député de transition, ministre du budget, le premier ministre a l'obligation de se remettre en cause
comme citoyen
et de donner des avis pour protéger les générations futures des pays du sous-développement. La première chose. La deuxième chose, lorsque nous dit qu'on parle de l'État sans budget, mais il faut que les gens comprennent très bien, dans la décentralisation, le budget de l'État n'est pas à confondre avec le budget du pouvoir central. Il n'a pas dit que le pays n'a pas de budget, mais il a dit que le budget du pouvoir central existe, le budget du pouvoir provincial, entités territoriales décentralisées et locaux, et les locales, existe, mais les documents consolidés qui écrit un budget pour les chefs de l'État, c'est pas interprété de cette manière. Pouvoir nous permettre de connaître toutes les charges réelles de l'État n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas se précipiter pour dire on manque les moyens, comme si on pense qu'on gère l'État avec les moyens. Il y a deux types de gestion. On fait soit la politique des moyens ou la politique des problèmes. Tous les pays du monde sont développés avec la politique des problèmes qui crée les moyens. Mais ici, on veut développer un pays, émerger un pays avec la politique de la
force. Comment voulez-vous un pays sans budget puisse avoir des moyens pour organiser les
élections? Mais c'est ça le problème. Le budget, c'est la prétention, c'est un acte prisonnier de recettes à la main à la base. Vous ne savez pas l'avoir, mais vous voyez, vous voulez avoir les moyens. Mais les moyens pour finaliser, quoi?
Encore vos propos, c'est-à-dire que ce sera impossible d'organiser les élections au gouverneur à ce jour.
Non, ce n'est pas ça le débat. Il faut que les Congolais comprennent. Oui. Deuxième chose, nous sommes d'accord qu'il y a un problème de moyens. Mais le gouvernement actuel a parlé de la résilience économique pour lutter contre l'austérité, si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire faire une économie de telle sorte que même s'il y a crise sur le plan international, que ça n'attaque pas l'économie congolaise. Mais le gouvernement de la banque vient de déclarer maintenant qu'avec la baisse du taux de change de la monnaie chinoise, notre économie va connaître la conséquence. Alors, pourquoi on s'est déclaré des choses pareilles? Troisième chose, monsieur le journaliste, pendant que nous manquons le moyen pour financer les dépenses essentielles de l'État qui ont lié avec la question de la souveraineté, notamment l'élection des gouverneurs, nous n'avons pas de moyens, mais nous sommes en train d'assister à la présence des dépenses somptueuses, c'est-à-dire, nous ne refusons pas d'inébler l'intelligence du gouvernement. Ça nous a pas pris combien? 46 millions de dollars, mais ça a été prévu où? Nous prenons pour Canalonzo. Bonne chose, mais ça a été prévu où? En dehors de ça, monsieur le journaliste, dans un pays, on cherche les moyens
pour financer l'émergence, il y a un dépassement de plus de 100% au niveau de la privature.
Oui, on avait fait 100%
au niveau de la présence de la République et dans le reste des institutions. Vous manquez les moyens pour financer les dépenses essentielles, mais vous êtes en train de gaspiller les
moyens
pour les dépenses non prévues.
Il y a les auditeurs.
C'est la marque de l'an.
Par contre, Sylvain qui est à Bouya, Joséphine à Boston, Michel à Kinshasa. Sylvain, vous êtes à Bouya, bonjour.
Bonjour, Gérard.
Vous avez la parole, Sylvain.
Je voudrais profiter de cette tribune de la radio Capi.
Allez-y, Sylvain. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Sylvain. On prend plutôt Joséphine qui est à Boston. Madame Joséphine, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Vous avez la parole, Madame Joséphine.
On va passer la parole. Allô?
Vous avez la parole, Madame Joséphine.
Oui, oui, je disais ceci, hein. Le découpage du pays nous a avancé à rien. Ce qu'il faut faire, comme j'avais dit la fois passée, il faut garder les 11 régions avec le même gouverneur, parce qu'on l'a fait, on a fait depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, mais prendre, utiliser le chef de... Les chefs de lieu, comme par exemple à au Katanga, il y a Kolwezi, il y a Kalemi, il faut utiliser les chefs des lieux là-bas qui soient comme des gouverneurs, parce que le pouvoir est là, les chefs lieux sont là, qu'on les utilise comme des gouverneurs. Bon, on a découpé, c'est parce que on voulait, c'est par rapport au vote. On est en train de préparer les votes, on est en train de d'amener les administrés à leur chef. La fois passée, on a fait des votes. Le Congolais, ils ont accepté ils ont accepté les résultats des votes. Si ils veulent encore faire le vote et qu'ils veulent encore gagner, ils peuvent utiliser les méthodes qu'ils ont fait la fois passée. Il n'y a pas à découper pour que les gens commencent à se battre pour qu'il y ait des pagailles dans des régions. Comme ça, les gens s'entretuent entre eux pour qu'ils gagnent le vote. Ils peuvent utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées en 2001 et en 2011 pour gagner le vote. Alors, si moi, je vais conseiller au gouvernement qu'il garde les 11 régions, mais comme ils ont découpé en 26 provinces, qui garde le chef de lieu comme gouverneur. Merci beaucoup. C'est ça mon rapport d'aujourd'hui.
Madame Joséphine, d'avoir appelé de Boston. On va prendre Michel qui est à Kinshasa. Michel, bonjour.
Bonjour, Radio Capi, bonjour.
Vous avez la parole, Michel.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis un auditeur fervent de Radio Capi. Et nous sommes en train de suivre très au sérieux, n'est-ce pas, sur tous les débats qui sont en train de se dérouler ces derniers jours à travers les zones de la radio Capi. Alors, le fameux problème du découpage, moi je suis en train de regretter d'être congolais. Lorsqu'on a découpé, est-ce que le gouvernement ne savait pas qu'il y a un processus de mise en œuvre pour l'installation de ces nouvelles provinces, et que cette mise en œuvre avait un coût? Parce que, et le gouvernement, et les députés nationaux qui ont examiné la loi sur la programmation, ce sont des députés qui constituent l'organe législateur, les députés qui votent notre budget. Ils ont su que pour l'année 2015, l'année où ils veulent imposer ce découpage-là, il n'y avait rien qui était inséré dans le budget. Mais on a expédié cette loi de façon telle qu'elle soit exécutée le plus rapidement possible, de façon à mettre le gouvernement de dos au mur. Vous voyez maintenant que c'est le gouvernement qui a présenté la loi, et les députés qui ont défendu la loi, qui ont envoyé la loi auprès du président de la République pour la promulgation, ils savaient tous que les retombées de cette loi-là faisaient appel à un budget, que le budget n'a rien prévu pour l'année 2015. Alors, pourquoi prendre alors des initiatives ne sont pas programmés. C'est pourquoi nous sommes en train de voir que c'était tout simplement tendancieux. Il y a un jeu qui n'a pas encore dit son nom, qui est en train de trouver, de vouloir rechercher, n'est-ce pas, où est-ce qu'on peut trouver l'ici, où est-ce qu'on peut trouver l'ici, parce qu'il y a des actes qui sont suspects. J.R., on a parlé de l'ONU comme si l'ONU allait changer le Congo en un jour. Le dossier ONU est où? Quels sont les objectifs qu'on avait assignés à l'ONU? Aujourd'hui, ces objectifs sont éteints. Le fameux décret pour les nouvelles villes, que le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur a défendu avec arrogance au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ne savait pas que cette loi-là, il fallait attendre à ce qu'on puisse démontrer toutes les difficultés qui étaient dans ce cas pour en se retirer? L'exécution du calendrier électoral a prévu l'identification des nouveaux majeurs là-dedans. Mais le temps qu'on est en train de passer ici, depuis le mois de février, que cette fameuse calendrier a été publié, qui n'avance même pas. Quelles sont les différentes actions qu'on a déjà menées par rapport à ce fameux calendrier, parce qu'il est encore en vigueur? Est-ce que tout cela, c'est pas ici, on ne pouvait pas faire une action comme celle d'identifier les nouveaux majeurs? On va encore mettre cette activité en 2016, où il y a encore toutes les élections sont reportées en 2016. Finalement, on est en train d'aller où? On a supposé qu'on dise, bon, maintenant, la mise en place de nouvelles provinces, ça échoue, il faut qu'on réussisse, parce que je suis en train d'entendre beaucoup de auditeurs sont en train de proposer à cette
équipe. Proposer qu'on revienne à 11 provinces.
Pour se retirer de cette loi-là. Mais est-ce que vous êtes en train de tirer les conséquences politiques sur le terrain? Parce qu'il y a déjà toutes ces nouvelles provinces-là qui changent déjà aujourd'hui. Nous avons déjà notre province.
Voilà, Michel, vous avez pu dire votre
minute. Non, cette province, voilà, Michel, on va voir après.
Voilà, Michel, vous avez épuisé votre minute qui nous a été accordée pour cette émission. Donc, je crois qu'on va prendre la parole. On va accorder la parole à Fanny. Fanny, vous êtes à Colombie. Bonjour, Fanny.
Oui, bonjour. Bonjour, Radio Capu, ainsi que tous les auditeurs qui sont en train d'écouter au Capu à ce moment. Avant de faire mon analyse, je rappelle aux intervenants de ne pas oublier que les dirigeants sont les meilleurs auditeurs de la radio. Ceux qui sont en train de condamner à ces instants, ils étaient le premier depuis 2011 à réclamer que le gouvernement puisse mettre ou réaliser la constitution en mettant en place, bien sûr, de nouvelles provinces. Nous regrettons pour la cacophonie qui se passe dans le fonctionnement des nouvelles provinces. Le mieux n'est pas de s'appeler sur le passé. Arrêt de la cour, ce que la CENI a fait, ce que le gouvernement a déjà fait. Mais pour moi, il faut chercher les pistes de solutions pour remédier à cette cacophonie.
Voilà, alors Fanny,
on a même besoin vite faire les choses, passer à l'action, peut-être passer par la nomination.
Alors Fanny, si vous pouvez me permettre, restez en ligne, on va passer à la solution, donc vous allez faire des propositions, gardez la ligne, et nous demandons à ceux qui veulent la peine de nous rejoindre de garder également la ligne, on va tous vous accorder la parole dans un instant. Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous entamons les derniers quarts d'heure de cette émission. Avec vous, Fanny, vous êtes à Colombie, avant le bulletin d'information, vous parlez déjà de solutions, parce que pour vous, vous estimez que nous ne devons plus nous habituer sur ce sort du passé, hein. Donc il faut maintenant voir l'avenir. Alors, Fanny, vous êtes avec nous en ligne. Madame Fanny, vous êtes avec nous? Voilà, Madame Fanny n'est pas depuis en ligne. On va prendre plutôt Bénin qui est à Kinshasa. Bénin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Bénin.
Mes salutations aux deux auditeurs, plus particulièrement à Fumototo. J'interviens très concisément, ça veut dire quoi? Je me rappelle dans la Bible, le Christ a dit que si quelqu'un veut construire une maison, il doit s'asseoir et calculer la dépense et confirmer s'il pourra finir et commencer la fondation. Les Français disent, comme tout le monde répète là-bas, gouverner se prévoit. Le gouvernement congolais est très compétent. Le gouvernement congolais a des moyens. Ça, ce sont des propos qui diffèrent avec tous mes prédécesseurs, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a les compétences et le moyen, mais seulement, comme le gouvernement veut rester éternellement, comme il est anti-alternance, on est en train de faire des calculs politiques pour faire croire, ce qui ridiculise d'ailleurs, le peuple, croyant que le peuple est tellement bête qu'on va accepter ses excuses pour dire, voilà, on n'a pas de moyens, on ne saura pas faire ceci. Mais ce qui est très important, c'est que ce gouvernement se pose la question, avec tous ces calculs politiques, où est-ce que nous allons ? Exactement à l'émergence ou dans un chaos ? Si dans un chaos, pourquoi voir parler de l'émergence ? Parce que l'histoire va nous rappeler. Je donne deux solutions, proposition plutôt.
Allez-y rapidement.
Les 26 provinces, il y a le moyen, mais comme on a fait ça rapidement pour des intérêts politiques qui n'ont rien à voir avec les intérêts du pays, si on peut retirer, comme venait de proposer certains, arrêter avec cette histoire, prendre les priorités, parce que même la Cour constitutionnelle, elle est aussi faite à la va-et-vite, parce que c'est le résultat sont des calculs politiques. Maintenant, il faut retirer cette promulgation de 26 provinces, comme tout le monde a dit, mais plutôt, j'appelle au gouvernement que lorsqu'on nous qualifie d'un étant sa budget par le tribune de M. Mouzito, il ne faut pas en faire un problème. Le budget, il est toujours là, mais c'est son application que les gens disent que l'État n'a pas de budget. Maintenant, il faut vraiment, vraiment que le gouvernement, les dirigeants plutôt, surtout le régime, sachent qu'après tous ces calculs politiques qui n'aboutiront plus parce que le peuple est très vigilant, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler la race ? C'est pourquoi je félicite le dialogue. Parce qu'au dialogue, on va parler de toutes ces histoires sans précipitation. Le dialogue, maintenant, le blocage, c'est au niveau, il faut conscientiser tous les opposants qui sont contre le dialogue. Je vous donne un exemple.
Oui, rapidement, maintenant, parce qu'on n'a plus assez de temps, on va conclure avec notre invité. Vous avez une minute juste pour conclure.
Ok. Je suis en train de souligner l'importance du dialogue, parce que nous sommes tous contre.
Oui, rapidement, et être précis.
Ok, je disais ceci. Par exemple, le 11 provinces était géré par le PPRD sans mandat. C'est un cas qu'on devait aussi, parce qu'il y a d'autres partis qui peuvent bien gérer le province. Donc, alors, dialogue pour conclusion, parce que toutes ces cacophonies prendront fin, à mon humble avis, au niveau du dialogue, en tant que Congolais, sans chercher à voir aussi les ennemis qui cherchent de se troubler pour nous amener à la dérive. Nous sommes capables de nous ramener tous à la raison et de faire avancer le pays.
Merci voilà. Beaucoup, Béna. Merci beaucoup. Alors, Maître Steve Kouata, Fumototo, au fait, ça devait quand même compliqué. Plusieurs tribunes avaient déjà prévu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, quelle doit être la solution ? Quelle doit être la solution quand même ?
Moi, je pense que la solution peut tout être sauf que les gens proposent le retour aux 11 provinces. Parce qu'il y a une confusion entre les démembrements et la décentralisation. Non, nous ne nous battons pas pour d'abord le démembrement. Nous nous battons pour que la décentralisation soit rendue effective. Et quelle est la petite différence ? On peut faire le démembrement dans la centralisation comme Mobutu a fait avec les grands types qui ont été éclatés à trois provinces. La province de Léopoldville a été éclatée en trois provinces. Il y a le Bas-Congo, le Bas-Ndoundou et Kinshasa. Mais est-ce que nous étions dans la décentralisation et la démocratisation ? Non. Nous voulons un Congo avec moins ou plus de provinces, mais dans la décentralisation, c'est-à-dire dans le respect des compétences et de ressources entre les entités décentralisées, notamment le pouvoir central, provincial, entre les intérêts décentralisés et le pouvoir local. C'est ça le vrai problème. Alors, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que la solution, c'est que nous entrons dans les 11, comme si dans les 11, la décentralisation était respectée. Alors que depuis le 20 janvier 2011, on a déjà tué le processus de décentralisation en redonnant au président de la République le pouvoir de relever les gouverneurs de leurs fonctions et même de discours de l'Assemblée pour les chefs. Nous entrons dans cette cacophonie grave ou bien nous devons dire. Dès lors que nous avons démontré que l'argumentaire sur le manquement des moyens n'est pas fondé, nous disons que, comme il y a la loi de programmation, on ne peut pas être dans un état démocratique et demander des histoires de loi. Nous devons sortir l'argent et exécuter les élections des gouverneurs parce que l'argumentaire qui a été avancé par le gouvernement n'est pas fondé. Deuxième chose, nous devons désormais dépasser les débats du oui contre les non, entre l'opposition et la majorité, le pouvoir et l'opposition et le pouvoir, la majorité et la minorité, parce qu'il faut reconnaître que le conflit au Congo n'est pas horizontal entre le pouvoir et l'opposition. Non, c'est le conflit est vertical entre le peuple congolais et l'élite
qui a dirigé depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Parce que 80% de ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui sont les grands étudiants des deniers publics d'hier. 80% de ceux qui sont à la majorité aujourd'hui sont les grands sujets de l'élection d'hier à l'opposition. Donc, il faudra que les politiciens comprennent que le conflit doit finalement opposer les peuples profonds, nous les pauvres, les mécontents, et tous ceux qui nous ont dirigés hier et aujourd'hui. Et par rapport à cela, il faut un débat fondé sur les idées qui émergent la population pour qu'elle puisse jouer deux rôles. Le rôle du connaisseur, la population doit connaître comment se jouer les jeux politiques, et le rôle d'arbitre. Et cela, nous pouvons donner, reconnaître le rôle de musique aujourd'hui, ce qui dit non. Au lieu de débattre opposition contre pouvoir, majorité contre opposition, débattons valeur contre anti-valeur, idée contre ignorance. C'est ça la troisième voie et c'est ça le combat qui reste à mener aujourd'hui. Alors, je cite que finalement, il faut que nous ayons des partis politiques. De la majorité comme à l'opposition, on n'a pas de parti politique. Vous pouvez vous poser la question de savoir à qui le peuple a donné le suffrage de Kinshasa. Sur MLC, un parti de l'opposition. MLC s'est arrangé avec Timbuktu pour dire qu'il ne se contrôle pas, fait de Kinshasa tout ce que tu veux. Mais si nous allons aux élections, le parti de l'opposition qui a gagné la majorité à Kinshasa va encore demander le suffrage de Kinshasa. Et finalement, à l'Équateur qui a reçu la majorité, on ne comprend pas. Même les débats de l'opposition pour aujourd'hui, c'est la
distraction.
Pourquoi l'opposition ne revendique pas les vraies questions d'État? Et pourquoi les partis de la majorité au pouvoir central ne donnent pas les compétences?
Alors, mais c'est cette vraie question d'État. Ce que nous abordons aujourd'hui,
voilà,
État sans province, comment sortir de cette situation, parce qu'en fait, le gouvernement l'a déclaré tout haut devant la Cour constitutionnelle, qu'il y a de l'anarchie, il faudrait maintenant mettre de l'ordre, et c'est ainsi que, à travers de cet arrêt, la Cour constitutionnelle propose des mesures transitoires. Mmh. Alors, la tribune avait déjà proposé des solutions, entre autres, la mise sous pied de ce mécanisme de transfert de compétences, la rétrocession, et tant d'autres, Steve Kevota.
Effectivement, Madame Fanny a très bien fait de.
Et d'ailleurs, nous arrivons là. Madame Fanny, vous êtes avec nous en Colombie?
Oui.
Rapidement, avant que je puisse conclure.
J'étais en train de dire que j'ai regretté beaucoup de cacophonie qui se passe dans le fonctionnement des nouvelles provinces. Nous nous sommes trop attelés, il y a eu trop de discours dans toutes les chaînes, les radios. Concernant la mise en place ou bien tout ce qui se passe, tout ce que la Cour a fait, tout ce que le gouvernement doit faire, mais tout ça sur le passé. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vite chercher la solution pour remédier à cette cacophonie. Nous devons vite chercher la solution pour remédier à l'anarchie qui se passe. Pour moi, la solution à faire est directement de nommer. Si vraiment, comme je l'ai dit encore, on avait mal fait dès le départ d'annoncer qu'il devait y avoir élection. L'élection n'a rien à faire dans, je ne sais pas, l'installation des gouvernements pour quelques mois seulement. Vous imaginez, même les députés qui vont nommer dans quelques mois, je ne sais combien de mois, ils ne seront pas en temps, ils ne seront pas à la page de quoi? De lire donc le gouvernement. C'est inutile de perdre et le moyen, donc l'argent de perdre.
Voilà, madame Fanny, dommage. On ne peut pas vous garder le plus longtemps parce qu'il n'y a plus de temps.
On passe directement au vote. En intervenant, tout comme au vote du gouvernement en direct, tout comme en passant par Okapi ou autre chaîne, c'est ce qu'il est en train de chercher.
Voilà, merci beaucoup, madame Fanny, d'avoir appelé de Colésie. Alors, c'est ce qui voit en conclusion.
Madame Fanny a bien fait de nous demander des solutions, mais malheureusement, elle n'est donc que des solutions conjoncturelles. Or, aujourd'hui, il faut des solutions structurelles. Les solutions structurelles, c'est quoi? Il faut respecter les compromis entre unitaristes et fédéralistes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, que les provinces doivent être considérées comme étant de mini-État, parce qu'elles doivent l'être. En réalité, chacune de nos provinces, même subdivisée en 26, vaut deux fois le Rwanda. Et en termes de superficie, et en termes de démographie. Donc, elles doivent réellement être de mini-États qui produisent de biens et services. Et pour qu'elles les deviennent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le pouvoir central transfère réellement toutes les ressources, les 40% des rétrocessions et les 10% de la caisse nationale des péréquations, transfèrent les compétences politiques en matière de l'éducation primaire, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, de l'agriculture, de la santé, ainsi que les affaires coutumières. Il faut que le pouvoir central commence à faire voter un budget de l'État qui sera un tableau de bord. Il faut, comme l'a dit l'honorable Mouzito dans la 4e tribune, que le pouvoir central ait une vision de construire les infrastructures qui réunissent les provinces entre elles pour créer une économie nationale ainsi que pour créer une nation. Et pour cela, il faut que le gouvernement soit en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Il faut qu'on mobilise les ressources auprès de nos partenaires chinois. Eh bien, ce n'est que de cette façon-là que l'on va rendre les provinces viables. Elles ne seront plus démordées.
Steve Kivota, cadre du Palou, merci d'avoir été de l'autre. Nous disons également merci à Fou Keke, initiateur de Troisième Voie, et aussi le Parti des Mécontents.
C'est comme ça que le Parti des Mécontents.
Merci beaucoup à Elie Tsiyagala qui a assuré la mise en onde de ce programme aux côtés des Pierrot et la musique qu'il a réalisée. Julie Pesabongunda était au standard. Gilles Nguyenboy, le plaisir de vous présenter cette émission et de la coordonner sous la supervision de Léonard Moulamba. On se retrouve demain dans un autre numéro. Notez qu'il y aura une émission spéciale Parole aux auditeurs à Bukavu dans le cadre de 70 ans des Nations Unies. Donc prenez rendez-vous avec nous lundi et contactez déjà l'équipe de production pour participer à cette émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.